Épisode 140 avec Mélissa Simoneau. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Mélissa Simoneau qui vient nous parler de Human Design. Après de multiples vies professionnelles, Mélissa découvre le Human Design et c'est une révélation. Vous verrez à travers l'épisode qu'elle est vraiment passionnée par son sujet et j'adore ce genre d'énergie. La mission de Mélissa ? Vous révéler à vous-même. Vous accompagner dans la découverte de votre Human Design et vous donner des outils pratiques et des stratégies quotidiennes pour réussir dans votre vie privée et professionnelle. Le Human Design, vous l'aurez compris, c'est un outil de connaissance de soi et personnellement, même si j'en avais déjà entendu parler dans le passé, je n'étais pas très familière avec ce système. Alors j'ai vraiment été heureuse de recevoir Mélissa, experte dans son domaine, pour mieux nous en parler. Dans l'épisode, Mélissa nous explique sa rencontre avec le Human Design et la façon dont cette rencontre a changé sa vie, ce qu'est le Human Design, son origine. Elle nous emmène dans une balade à travers les différents types, et elle prend aussi exemple sur mon type, donc je découvre certaines choses de moi pendant l'épisode. Elle nous parle de toutes les injonctions que le Human Design aide à déceler, et bien plus encore. Mélissa vient de publier un livre complet autour du Human Design, si vous souhaitez rentrer en profondeur dans ce sujet. Le lien vers l'achat de son livre est disponible directement dans la fenêtre de l'épisode. Je vous laisse sans plus tarder avec notre conversation et je vous retrouve à la fin. Très belle écoute. Mélissa, bienvenue à cette table. Je suis hyper heureuse de t'accueillir, surtout qu'aujourd'hui, c'est un grand événement puisque tu as sorti ton livre qui s'appelle « Libérer votre potentiel grâce au Human Design », le grand guide de la connaissance de soi, sorti chez Jouvence. Merci beaucoup pour ce cadeau, j'ai vraiment hâte de plonger dedans. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement et aussi nous dire comment est-ce que toi, tu as rencontré le Human Design et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Merci Anouk, merci de me recevoir. Mon premier podcast en présentiel, c'est cool. Oui, en effet, aujourd'hui, c'est sympa qu'on se rencontre en ce jour de sortie du livre. Donc, c'est un moment hyper excitant. Alors, moi, je travaille avec le Human Design depuis 2019. Je l'ai rencontré en 2019. Et alors, j'ai eu une vie avant ça professionnelle très variée. C'est ma quatrième vie professionnelle. Donc, j'ai démarré en tant qu'attachée de presse, comme je te disais tout à l'heure, dans la mode, dans le luxe. Alors là, je poursuivais un petit peu, je pense, des rêves de validation extérieure, tu vois, et c'était mon plan depuis toujours. Et puis en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai bien vu que j'étais pas du tout faite pour ça. C'était absolument pas aligné. Mais je me suis quand même acharnée un petit moment, jusqu'à ce que la vie me ferme la porte et que je comprenne que vraiment, il fallait que je passe à autre chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu, pour la première fois, après avoir enchaîné le lycée, les études, les stages, les boulots, avec un rythme hyper intense, que j'ai eu enfin la possibilité de me recentrer chez moi, des moments off. Et j'ai collaboré à ce moment-là à l'ouverture d'un bar à cocktail de mon compagnon de l'époque, mais je faisais toute la partie back-office. Et donc, j'avais vraiment toute une partie de travail à la maison et peu de travail finalement. surtout au début, et je me suis beaucoup reposée et j'ai senti en fait à quel point j'avais accumulé une fatigue de dingue sur un rythme qui ne me convenait pas du tout. J'ai compris après, notamment grâce au Human Design, à quel point la vie que j'avais avant n'était pas juste pour moi. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'est que j'avais probablement frôlé le burn-out. Je me suis reposée un moment, j'ai travaillé à la sortie de terre de ce projet. Donc j'ai fait ça un petit peu, et puis le fait d'avoir autant de temps chez moi, j'ai repris une bonne hygiène de vie, j'ai repris le sport, je prenais pas du tout soin de moi avant, et je suis tombée en passion sur le sport, et comment ça marche dans le corps, et comment on peut faire des programmes intelligents, etc. Et puis tellement que j'ai eu envie de me former à ça. Donc j'ai fait une formation de coach sportif, j'ai arrêté de m'occuper du restaurant à ce moment-là, et suite à ça, j'ai exercé comme coach sportif pendant 2-3 ans. Et en tant qu'indépendante aussi. Donc là, j'étais complètement... C'était terminé avec le salariat à ce moment-là, tu vois, depuis la fin de quand j'étais attachée de presse. Donc c'est le début de l'indépendance. Et puis en fait, très vite, une fois la passion du début de l'apprentissage, de la stimulation, de la nouveauté, etc., je me suis dit, bah en fait, non, ça ne me branche pas plus que ça. J'aime beaucoup apprendre des choses aux gens, mais la régularité, le fait de voir les mêmes personnes toutes les semaines... avec tout ce que ça veut dire aussi de déplacement, d'annulation, de... Et puis ouais, cette fréquence, comme ça, moi j'ai besoin que les choses changent, mais je ne l'avais pas encore bien conscientisé à cette époque-là, je te parle forcément depuis le recul de maintenant. En tout cas, il y avait de la lassitude, et encore cette sensation de « mince, je me suis encore trompée, quoi. C'est pas ça. » Et ça fait 3 fois, et qu'est-ce que je vais faire ? Et puis bon, bah, je continuais, parce que c'est quand même pas, c'était pas le bagne du tout, hein, et puis il y avait, j'en avais besoin pour ma vie quotidienne, quoi. Et puis c'est quelques mois après, en fait, par surprise, sans chercher. J'étais pas du tout en train de faire une reconversion, d'avoir un coach pour ça, ou pas du tout. Et au détour d'une story Instagram, en février 2019, je suis tombée sur le mot projecteur. Et ça faisait pas du tout de... Il n'y avait pas de cohérence dans la story dans laquelle ça tombait. Ça décrivait un bébé qui dormait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et il y avait un tag, j'ai cliqué, et en fait, c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite. J'ai commencé à tirer le fil de la pelote. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc que je connais pas ? Parce que j'avais quand même, en parallèle de tout ça, commencé vraiment à avoir une ouverture au niveau, une ouverture de conscience, une ouverture de mon chemin de spiritualité, et à essayer de me comprendre, à utiliser l'astrologie, à avoir des rendez-vous avec une médium. Enfin, j'avais fait plein de choses, tu vois. Et ça, ça n'avait jamais croisé ma route. Et en fait, quand je suis tombée là-dessus, j'ai eu un... espèce de rappel immédiat. C'est comme si tout ce que je lisais, et il y avait beaucoup moins de ressources que maintenant, mais tout ce que je lisais, c'était sur moi, sur le descriptif, hein, puisque je vais l'expliquer, mais en gros, c'est basé sur nos informations de naissance. Donc j'ai rentré mes infos de naissance, et là, j'ai commencé à lire des choses, tu vois, en anglais beaucoup à l'époque. Et ça me décrivait avec une précision, avec des mots qui n'avaient jamais été utilisés dans aucun autre outil. Que j'avais pourtant beaucoup aimé. Hein. L'astro, ça m'a beaucoup apporté, ça continue de le faire. Mais là, ça a eu une résonance incroyable. Ça venait mettre justement des explications sur beaucoup de choses que je venais de traverser. Ces changements de carrière, cette difficulté avec la régularité, cette appétence pour la nouveauté, ce besoin d'apprendre, mes vagues émotionnelles, par exemple. Enfin, énormément de choses. On m'a jamais parlé de ça, mais comment c'est possible que d'un coup comme ça, en une nuit, je trouve plein de réponses. Et puis, la passion ne m'a pas du tout quittée. Donc, en même temps que j'ai découvert ça, j'ai aussi eu l'évidence que je voulais le transmettre. Vraiment, ça a été hyper coordonné. À aucun moment, j'ai eu la sensation d'y réfléchir. Attends, est-ce que ça se limite à moi ou est-ce que je le diffuse ? Moi, en même temps que j'ai découvert ça, j'ai vu que c'était absolument inconnu. Et ça m'a énormément choquée. J'étais en mode, mais vraiment, tu sais, comme les illuminés, mais attends, il faut le dire à tout le monde, il faut sortir dans la rue, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, j'ai eu cette espèce de passion qui m'a attrapée. Ensuite, j'ai formalisé tout ça avec une formation. J'ai trouvé quelqu'un avec qui vraiment ça matchait et ça résonnait. Il n'y avait pas du tout les mêmes options de formation qu'il y a aujourd'hui. Et quand bien même, je suis hyper heureuse parce que ma formatrice, je la choisirais encore aujourd'hui au milieu des... x10, x100 de personnes qu'il y a, tu vois. Et donc, j'ai adoré cette période. J'étais toujours coach sportif. Et puis c'est un an plus tard que j'ai commencé à prendre un peu des cobayes, à professionnaliser un peu les choses. Et je me suis lancée officiellement en fin d'année 2019. Puis là, il y a eu le confinement. Et donc, ça a permis à mon activité de se développer énormément. Et donc, ensuite, je pouvais plus coacher en salle puisqu'on était confinés. Et au déconfinement, je vivais de mon activité avec le Human Design et je suis jamais retournée coacher les gens. C'était plus possible de toute façon. Donc, et ça, c'était donc été 2020.
Et de quelle manière est-ce que tu dirais que cet outil, qui est finalement un outil de connaissance de toi, a transformé ta vie? Comment est-ce que ça t'a aidé, soutenu? Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Alors, ça a changé énormément de choses. Alors, je dirais qu'avant d'avoir transformé ma connaissance de moi, parce que bon, c'est ce que je t'ai dit, et c'est vrai, c'est le cas. Mais ce qui est merveilleux avec le Human Design, c'est qu'avant d'être un outil où on se regarde que soi, c'est quand même un outil qui nous permet de décrire l'espèce humaine. Donc, ça nous permet de dézoomer, de comprendre, de regarder ce grand puzzle et de nous voir en tant qu'espèce, en tant que collectif, avec toutes nos disparités, toutes nos différences, toutes nos complémentarités, de comprendre, de mettre le doigt sur des choses qui nous paraissent surréalistes que ça existe, d'autres façons que nous de décider, d'autres façons que nous de cultiver des opportunités, d'autres façons que nous de diffuser ou de recevoir de l'énergie, d'autres sensibilités. Ça vient expliquer pourquoi certains sont plus ouverts d'esprit, d'autres moins, pourquoi certains sont spontanés, d'autres pas. Et du coup, pour moi, qui suis par nature, par design, plutôt rigide intellectuellement, cet outil n'est pas arrivé par hasard, en fait. Il est venu me poser un cadre et m'ouvrir, en fait, l'esprit, parce que, en me montrant, en fait, par un système très scientifique, en fait, tu regardes un schéma, il est écrit noir sur blanc, tu as des combinaisons possibles qui existent, et donc tout ça, pour moi, est venu séduire mon mental, pour ensuite pouvoir descendre et être intégré dans mon expérience, dans mon cœur. Mais moi, j'avais besoin d'abord que ça passe par ce côté précis, carré. C'est entre la science et l'art, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier, de très riche. Et du coup, moi, cette densité d'informations, c'est venu nourrir ce besoin que j'avais de comprendre le monde, parce que j'avais du mal à comprendre. Et ma place à moi, mais aussi les autres. Et donc d'abord, ça m'a transformée, et ça continue de le faire, à cet endroit-là. M'ouvrir l'esprit sur qui est l'autre en face de moi. Alors bien sûr, qui il est ne se limite pas à son Human Design, mais ça me donne en fait une grille de lecture sur le monde, et si encore on dézoome, pas uniquement avec les gens que je vais rencontrer, sur les besoins de l'humanité, nos besoins collectifs de différence, dans un monde qui est extrêmement homogénéisant, qui nous envoie des injonctions, quels que soient nos groupes d'appartenance, sur qui on doit être, comment on doit l'être, à quel moment, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie, comment on doit prendre des décisions. Et le design vient vraiment transformer ça. Pour moi, il m'a apporté ça d'abord, une vision du monde élargie. Et pour moi, personnellement, bien sûr, c'est un outil de prise de décision, c'est un outil qui nous indique à quel point notre mental n'est jamais le lieu de prise de décision, pour personne. Alors ça, quel que soit notre design. Et pour nous tous, ça se passe dans le corps. C'est un retour à l'intelligence du corps. Mais notre design spécifique va venir nous indiquer comment est-ce que toi, tu es faite pour sentir. Ça sera différent de moi. Et c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus précis que écoute ton intuition, écoute ton corps. Moi, ça manquait en fait tout ça de concret. Et le design est un outil qui certes est basé sur nos informations de naissance, donc date, lieu et heure, qui nous donne notre empreinte énergétique et qui paraît complètement... abstrait quand on parle de ça, mais qui en fait se matérialise dans une réalité et prend vérité dans notre expérience. On est invité à expérimenter, à vérifier pour nous si ce qu'on peut nous transmettre dans notre design fait écho dans notre réalité. Et donc, moi, j'ai mis tout ça évidemment en expérimentation et c'est pour la vie. Donc, j'expérimente depuis 5 ans l'impact que ça a eu sur notamment comprendre que c'était tout à fait normal que j'ai des fluctuations d'énergie disponibles aussi grandes. Et donc, le fait que j'avais pu frôler le burn-out en étant dans une activité salariée, avec cette constance et avec des horaires extrêmement intenses qui ne me conviennent pas du tout. Pourquoi le salariat pouvait être compliqué? Parce que moi, pour les personnes qui connaissent, moi, je suis de type manifesteur en Human Design. Et un des besoins principaux du manifesteur, c'est sa liberté, son indépendance, son autonomie, avec difficulté à être contrôlé, à ce qu'on te dise quoi faire. Et donc, moi, dans le salariat, ça, par exemple, j'avais pas la marge de manœuvre d'avoir suffisamment d'autonomie, donc ça a été très compliqué. Donc j'ai eu rétrospectivement énormément de réalisations pour faire la paix avec ces parties de moi que je pouvais continuer de juger. Et puis, ça m'a appris, ça continue de m'apprendre, parce que c'est jamais acquis, le bon moyen pour moi de cultiver des opportunités et de prendre des décisions, de sentir dans mon corps quand c'est juste, quand c'est pas juste, et de faire la différence avec ce que peut me raconter mon mental et d'autres zones de mon design qui sont... influençables et sensibles à l'extérieur, mais qui ne sont pas moi, qui reçoivent l'énergie de l'extérieur, qui donc vont avoir une empreinte sur mon expérience, mais que je peux différencier de ma vérité intérieure. Donc c'est mon fil d'Ariane, c'est mon terrain de jeu. Et ça a transformé, bien évidemment, aussi ma vie professionnelle, puisque c'est aujourd'hui ma mission de le transmettre, de le diffuser à la plus grande échelle possible pour montrer, en fait, que bah, moi, quand je vois un schéma, je vois l'intégralité des potentiels d'un point de vue énergétique sur la beauté qu'on contient tous à l'intérieur et à quel point ça peut être triste d'essayer de se fondre dans un moule qui n'est pas du tout adapté pour nous, en fait. Et donc, moi, j'en ai fait ma mission de rappeler aux gens qu'il faut lâcher ces codes-là et qu'il faut savoir retrouver à l'intérieur. Il n'y a rien à imaginer, il n'y a rien à aller inventer. C'est uniquement enlever des couches. Notre design enlève des couches de ce qui n'est pas nous pour nous rapprocher de notre essence avec laquelle on est venu au monde, en fait.
J'adore. Et ça vient d'où ? Qui l'a inventé ? Ou ça sort d'où, cette carte extraordinaire ?
Alors, qui l'a inventé ? Ça a été canalisé. Donc c'est un monsieur qui s'appelait Alan Krakauer et qui habitait à Ibiza à l'époque. C'était un Canadien, pas du tout mystique, et qui a eu une expérience en revanche mystique en 1987, en janvier. Il rentrait chez lui, il a entendu une voix qui lui a dit « Let's get to work », donc on se met au travail. Et il a été en quelque sorte envahi d'informations pendant une semaine. Il n'avait plus du tout le contrôle de ce qu'il recevait et il a été mis en pause, entre guillemets, au niveau corporel. C'est la sensation qu'il a décrite, en tout cas. Et ont été téléchargées à l'intérieur de sa conscience toutes les informations relatives au human design, mais pas que, des informations sur la cosmologie, notre évolution en tant qu'espèce humaine, justement, d'un point de vue rétrospectif et sur l'avenir de l'espèce humaine qui est toujours en mutation. Énormément d'informations comme ça, et puis donc il a ensuite passé le reste de sa vie jusqu'à son décès en 2011 à s'en remettre, comprendre ce qui lui est arrivé, le diffuser, le transmettre, le formaliser, en faire des formations. Et voilà, il a été le messager, le premier messager du human design. Et donc il a eu cet impact sur le monde en transmettant cet outil. Alors après, l'idée, c'est certaines personnes s'arrêtent à ça. Qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe avec les infos de naissance ? Et c'est là où j'insiste vraiment sur le côté, ça n'est absolument pas un ensemble de règles, ça n'est pas une religion, ça n'est pas un dogme. On n'a pas à croire au human design. Ça, j'insiste beaucoup. Je le pense aussi pour l'astrologie. L'influence des planètes n'a pas besoin de vous, n'a pas besoin que vous y croyiez. Et le human design, c'est pareil, ça existe. C'est la loi énergétique de notre fonctionnement. Ça décrit comment les êtres, l'espèce humaine, mais ensuite chaque être humain à l'intérieur, a reçu à la naissance une empreinte énergétique par un champ informationnel qu'il a traversé au moment de la séparation du corps de sa mère. Et ce champ informationnel laisse une trace qui va du coup déterminer, sans limite aucune, mais va donner un cadre au fonctionnement de cet être, au fonctionnement énergétique. Mais l'idée, c'est pas de nous enfermer, de nous mettre dans une case, c'est un ensemble de potentiels. Bien sûr, vos informations de naissance, elles changent pas. En revanche, ce que tu en fais au fil de ta vie, l'influence de la famille dans laquelle tu viens au monde, les conditionnements que tu vas recevoir selon les milieux dans lesquels tu vas évoluer, ton niveau de conscience, ton envie d'apprendre, tout ça va avoir un impact sur ce que tu vas faire de cette main de carte, en fait. C'est comme si tu démarrais une partie de carte et on te dit la main que tu as. Mais si le voisin, il avait à une table autre la même main, il jouerait pas la même partie que toi. Donc ça n'est pas enfermant, ça n'est pas limitant, mais c'est quand même super aidant parce que ça constitue en fait ta notice de l'utilisateur. Et donc ça vient de cette... Il y a une partie, alors pour être plus précise, le human design, c'est une synthèse de plusieurs autres sciences et approches. Donc il y a l'astrologie, la science des chakras, l'arbre de vie de la Kabbale, le Yi Ching chinois, qui est un art divinatoire millénaire, et aussi un lien avec la physique quantique et la génétique. Et donc, en fait, tout ça forme un nouveau système, qui est donc le human design, et qui est basé sur les mêmes infos que pour établir ta carte natale en astrologie. Sauf que là, ça te donne, c'est un logiciel complètement différent, et ça te donne ton schéma human design, qui est complètement fou. Il y a des couleurs, des chiffres, des formes. Alors, l'idée, c'est pas de l'interpréter par soi-même. Forcément, enfin en tout cas beaucoup de gens s'arrêtent en disant mais j'ai rien compris. Bah, oui non mais ça c'est normal, il n'y a pas de souci, il faut l'interpréter. Mais c'est le descriptif en fait de l'énergie qui t'a impacté au moment de ta naissance et 3 mois avant.
Ok, trop bien. On va plonger là-dedans de toute façon. Je voulais juste revenir sur le fait de croire ou pas à quelque chose. Je te rejoins complètement là-dessus. Je veux juste mettre une petite note que tout de même, quand on dit que cette personne a canalisé quelque chose, pour la plupart des gens, il peut y avoir un point d'interrogation en mode « Ok, ça veut dire que je crois en ça ». Ça peut poser un peu des petites interrogations, mais quoi qu'il arrive, c'est intéressant de toute façon faire une expérience avec le human design pour voir si, en effet, il y a quelque chose qui résonne avec nous et qui nous paraît cohérent avec notre réalité.
Ouais, exactement. C'est, en fait, c'est pour ça que j'insiste là-dessus et que j'ai aucun problème à dire on vous demande pas d'y croire. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée, c'est une invitation à expérimenter. Oui. Et je crois que la vie, de toute façon, c'est ça. Je crois qu'il ne doit pas y avoir de règles et de dogmes, et quelles que soient les approches qu'on suive, et que l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à qu'est-ce qui est vrai pour moi, comment est-ce que ça résonne pour moi, comment est-ce que je le ressens. Et c'est comme ça que les choses, elles prennent vérité à l'intérieur de nous, et qu'on se crée, je prends ça, je laisse ça, ça ne résonne pas, et je me crée mon propre cheminement avec quel outil que ce soit. Et celui-là, c'est vrai que c'est pour moi celui qui en parle le plus de cette invitation à expérimenter.
Trop bien. Alors, expérimentons. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous parler peut-être des différents types qu'il existe en human design ou nous emmener dans un espèce de guide de cette carte, en fait. Et puis, alors, je t'ai donné mes informations. Moi, personne ne m'a jamais fait mon human design, donc je suis assez excitée de savoir ce qu'il en sort et ce que tu pourrais éventuellement avoir à me dire par rapport à moi.
Trop bien, j'adore les pages blanches. Alors j'adore faire des séances avec tout le monde, hein, mais c'est vrai que les personnes qui découvrent, c'est un truc très excitant pour moi. Donc c'est vrai que le human design, c'est très dense, c'est très riche, il y a énormément de couches, mais l'idée, c'est pas de s'arrêter à ça en se disant « bon, de toute façon, ça sert à rien, je pourrais jamais tout apprendre ». C'est comme on expérimente, c'est pas plus d'infos, c'est pas tout savoir, c'est pas tout connaître, c'est prendre les bonnes infos pour soi au bon moment et les mettre justement dans son intégration et du coup faire son tri. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de nuances. Et au premier niveau de lecture, c'est ce qu'on appelle le type énergétique. Donc là, il existe 4 grandes familles. On a donc la famille des générateurs, à laquelle tu appartiens, on va y revenir. C'est environ 70% de la population. La famille des projecteurs, avec environ 20%. Les manifesteurs, environ 9%. Et les réflecteurs, 1%. Bien sûr, on ne s'arrête pas au type. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire « Ah, mais moi, j'appartiens au type le plus répandu, donc ça veut dire que je ne suis pas originale. » Pas du tout, parce qu'ensuite, on creuse. Donc c'est comme, tu vois, comme un entonnoir. Donc ensuite, on rajoute des couches de différenciation jusqu'à arriver à un niveau de nuance. Il y a des milliards de configurations possibles. Donc on ne s'arrête pas du tout au type. Mais le type, c'est, entre guillemets, le véhicule que tu utilises dans cette vie qui va nous parler de la façon dont tu es câblé pour utiliser ton énergie et cultiver des opportunités. Donc, ensuite, il y a d'autres nuances, comme par exemple l'autorité, qui est ton GPS intérieur, donc la façon dont tu es faite pour justement sentir lesquelles de ces opportunités te conviennent, et t'orienter dans la vie et faire des choix. De façon tout à fait spécifique, l'autorité nous parle de timing, il y a des gens qui sont faits pour décider de façon spontanée, d'autres qui sont faits pour décider à un rythme beaucoup plus long. Il y a aussi ce qu'on appelle le profil. Le profil, c'est les 2 chiffres séparés par un slash. Alors, il en existe 12. On peut être de 4, 1, 3, 3, 6. Voilà. Et le profil, ça nous parle de la façon, par exemple, dont on traite l'information. Ça nous parle de la façon dont on peut notamment se mettre en avant professionnellement, parler de soi, de la façon dont on apprend de la vie. Et il y a aussi, alors, je pourrais pas tout vous dire, mais un autre élément qui est extrêmement important, c'est celui des centres. On a 9 centres énergétiques. Alors là, on voit l'influence de la partie chakra. Alors en chakra, il y en a 7 principaux, en human design, il y a 9 centres. Et donc, par exemple, de savoir lesquels de nos centres sont ce qu'on appelle définis, donc qui vont émettre de l'énergie vers l'extérieur, et lesquels de nos centres sont ouverts ou non définis, c'est ceux qui apparaissent en blanc sur notre schéma, ce sont nos zones sensibles, c'est les zones où on reçoit l'énergie extérieure. C'est donc ces fameuses zones qui peuvent à la fois nous influencer, nous sortir de notre alignement, qui ne sont pas vraiment nous, mais qui ont également le potentiel de nous apprendre tellement de choses sur le monde. C'est nos zones d'ouverture, c'est nos fenêtres. Donc voilà, et les couches continuent et c'est sans fin. Mais donc pour revenir sur ce premier niveau de lecture, je peux faire une petite balade au fil des types. Donc quand on commence par la partie générateur, donc la grande famille des générateurs, les 70%, qui sont divisés en 2 catégories, les générateurs et les générateurs manifesteurs. qui sont à peu près à 50-50 chacun. Les générateurs, c'est les créateurs, les constructeurs, les travailleurs, les producteurs de notre monde. C'est des personnes qui sont là pour infuser leur énergie, mettre toute leur énergie de travail, de production dans ce qui les anime réellement, ce qui les prend aux tripes, ce qui leur donne envie de se mobiliser. Et tout ça, c'est un appel intérieur. C'est pas parce qu'ils doivent qu'ils font les choses depuis un espace de « je dois »,« il faut », »,« je crois », parce qu'on me dit que, il n'y a pas du tout la même énergie. Quand ils s'investissent dans des choses qui vraiment vibrent au plus profond de leur être, leur énergie se met en action presque toute seule, là, il y a une capacité de créativité, de production qui est quasiment illimitée. Et donc ces personnes-là sont faites pour, plutôt que de chasser des opportunités, de vouloir être absolument proactif, d'avoir peur que rien ne se passe, et donc il faut absolument initier, il faut être là au début, etc. C'est des personnes qui sont au contraire faites pour se laisser prendre par la main, par la vie, laisser les choses se présenter sous toutes leurs formes, et attendre que quelque chose résonne vraiment dans leur tripe, ça se passe dans le ventre, pour sentir que justement, là il y a de l'énergie disponible, c'est la bonne direction pour moi. Et sentir les choses dans leur ventre, sentir que l'énergie s'ouvre, ça leur permet de sentir vers quoi aller et quand y aller. Il y a un vrai signal de timing aussi. Donc globalement, ça c'est le fonctionnement des générateurs, donc dans la catégorie à laquelle tu fais partie. Et la différence principale entre les générateurs, qu'on dit générateurs purs, et les générateurs manifesteurs, qui est toi ton type, c'est que le générateur manifesteur va avoir une approche beaucoup plus multipassionnée, une approche beaucoup moins linéaire. C'est des personnes qui vont avoir envie de démarrer plein de choses, de pas forcément tout terminer, qui ont des centres d'intérêt multiples, qui ont une énergie qui circule extrêmement rapidement, qui vont aller de A à C à F et sauter des étapes. Et donc là où le générateur pur a un processus plus linéaire, plus étape par étape, qui va venir compléter ce fonctionnement ce que la société peut appeler comme dispersé, du générateur manifesteur, qui est en réalité son fonctionnement. Et en fait, on voit déjà à l'échelle de ces deux types à quel point, enfin, c'en est un seul et même, mais à l'échelle de ces deux catégories, à quel point tout ça se complète. Et en fait, quand on est chacun à son poste, au bon endroit de son énergie, on n'a pas de lacune, on n'a pas de dysfonctionnement. On a forcément les alliés qui vont venir compléter là où la société va dire « Toi, il te manque un truc, tu termines pas ce que tu commences ». Ah oui, il y a d'autres personnes en fait qui vont venir le terminer parce que ça va être l'endroit de leur passion, ça va être l'endroit de ce qui les enthousiasme. Ils vont le sentir dans leur trip ou ailleurs s'ils ne sont pas de ce type-là. Et donc souvent, toi, en tant que manifesting générateur, une des premières choses à déconditionner, c'est cette attente de vouloir avoir un processus linéaire, de te définir par une seule activité, une seule chose qui t'anime, de vouloir terminer tout ce que tu démarres, de vouloir te mettre dans une case. De juger pour, tu vois, toi, tu fais plein de choses dans le domaine du yoga, mais plein de choses diverses et variées. Puis il y a le podcast, puis il y a le surf, puis il y a plein de trucs. Et c'est assez typique, tu vois, tout ça. Alors je précise quand même, les manifesting générateurs n'ont pas l'exclusivité de la multipotentialité. Parce que souvent, quand on écoute à l'échelle du type, les gens vont dire « Ah oui, mais moi, je me reconnais aussi dans tel autre. » Et c'est tout à fait normal, parce que comme je vous l'ai dit au début, le type, ça n'est pas tout. Derrière, on creuse et on arrive à d'autres niveaux de nuances. Donc ça, globalement, le message pour les générateurs, leur stratégie, c'est justement de répondre à la vie, de répondre par la sensation qu'ils ont dans les tripes et ensuite d'engager leur énergie, plutôt que de partir de la tête, de ce qu'ils croient ou pensent devoir faire et de fomenter des plans à long terme qui vont impacter donc leur activité au présent, mais qui vont venir du mental, qui vont pas venir de quelque chose d'intégré et de corporel.
C'est super intéressant et c'est vrai que ça challenge énormément d'injonctions de la société comme... c'est quoi ton plan, tu vas faire quoi? Et en fait, il y a des moments, enfin, moi, je me retrouve dans ces situations où là, je sais pas. Et j'essaye parfois de me dire, ah, il faut que j'ai quelque chose de chiadé pour l'avenir alors qu'il y a rien qui vient. Et puis, la deuxième chose, c'est en effet, c'est cette multipotentialité où parfois j'ai un peu l'impression d'être genre schizophrène de mes passions tellement j'ai de choses que j'adore et je me dis, mais pourquoi t'arrives pas à être juste genre une chose? Et je sens que c'est un vrai travail de déconstruire ça et d'être confortable avec sa différence, en fait.
Tu vois, rien que de venir poser des mots sur ces choses-là, ça fait pas tout. C'est pas une baguette magique, le human design. Il suffit pas de l'entendre pour dire, ça y est, ça devient vrai pour moi. Pas du tout. Mais c'est une proposition à entrer dans l'expérience. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te connaît pas, qui vient poser des mots là-dessus, évidemment que ça apaise quelque chose. Et on en a encore besoin aujourd'hui. J'espère qu'un jour, on vivra dans un monde où on n'aura plus besoin qu'on vienne nous valider et qu'on se suffise à nous-mêmes dans bah voilà qui je suis et voilà ça c'est ok pour moi, ça ça l'est pas. Mais aujourd'hui, en l'état actuel de notre niveau de conscience collective, on a encore besoin de ces outils libérateurs qui viennent poser des mots sur notre expérience et nous donner en quelque sorte le coup de pouce dont on a besoin pour aller épouser ce qui est nous et arrêter de se juger pour ce qu'on estime être dysfonctionnel alors qu'en fait c'est simplement juste la conséquence de notre nature en fait. Et c'est ok. Donc moi c'est ce message-là aussi que je veux beaucoup transmettre. C'est que tout est ok et c'est les jugements qu'on porte dessus qui sont pas bons.
Est-ce qu'il y a d'autres choses pour ce type-là qui peut être intéressant, je sais pas, en termes de gestion émotionnelle, en termes de... je sais pas.
Alors les émotions, ça se situe ailleurs, okay. Donc ça dépend pas du type.
Okay.
On en parlera pour toi parce que tu as un fonctionnement spécifique à cet endroit-là, mais à l'échelle du type, je pense que c'est ça qui est important de retenir quand on est générateur, accepter de laisser la vie se présenter. Vous avez la capacité dans votre ventre de sentir ça c'est oui, ça c'est non, c'est assez binaire. Hein. Et du coup d'accepter de ne pas prendre les devants avec le mental et de se laisser répondre. Et justement dans une société, comme tu le disais, qui exige des plans à moyen, long terme, et puis du coup on va mettre des choses en place parce que là-bas dans 2 ans, dans 3 ans je vais être là-bas. Et en fait vivre une vie de générateur, de toute façon se remettre dans le corps, c'est ça, mais vivre une vie de générateur, s'aligner là-dessus, c'est accepter de s'en remettre à son ressenti au présent. Et quand vous ressentez une attirance physique, viscérale vers quelque chose, ou à l'inverse que tu vas ressentir une fermeture, un non corporel, c'est vraiment pour ce moment-là, pour cette activité-là. Ça ne dit rien de bah, peut-être qu'un non aujourd'hui sera un oui demain. Donc il faut être capable de rester dans l'attention, rester dans la présence au corps. Et puis aussi comprendre que ça ne vient pas avec des astérisques et des explications et des arguments. Ça, c'est le mental, ça. T'as un oui, bah t'as juste à y aller, en fait. C'est le bon, c'est la bonne action pour toi. Donc, vas-y, mobilise ton énergie vers là. T'as un non, tu n'y vas pas. Et le mental, bien sûr, va exiger toute une ribambelle d'explications. Oui, mais pourquoi? Oui, mais après? Oui, mais où ça va me mener? Bah, en fait, ça apparaît après. Quand tu te retournes, tu comprends dans les expériences. Mais sur le moment, tu n'as pas ça. Et c'est là où ça demande un saut de foi et une confiance en son corps qui ne peut naître que de la multiplication des expériences. Mais pour la plupart des gens, quand tu te retournes, tu dis « Ah mais c'est vrai que j'ai quand même fonctionné comme ça. Ah mais c'est vrai que les trucs cool dans ma vie, je les ai faits sans plan, ou je les ai faits au viscéral, ou peu importe en fonction de ton fonctionnement. » Et ça, ça permet aussi d'avancer, du coup, de se dire « Ah, ok, donc il y a peut-être un truc de vrai, je vais peut-être pouvoir continuer dans cette direction.
» Ok. Alors, quels sont du coup les autres types ?
Alors ensuite, nous avons la deuxième grande famille, c'est la famille des projecteurs. Donc là, on est sur environ 20% de la population. Et on quitte le côté faiseur, constructeur, énergie constante. On arrive sur, ça sera aussi un point commun pour les 3 autres types, donc les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, on arrive dans le domaine de l'énergie fluctuante. On n'est plus sur des personnes qui sont là pour faire et pour contribuer au collectif par leur capacité à produire, mais les projecteurs, c'est des personnes qui sont là pour voir. C'est des personnes qui ont une sensibilité naturelle à l'humain, au système, au groupe, et qui sont capables de ressentir l'autre, de le voir, de le percevoir dans ses atouts, dans ses challenges, dans ses dysfonctionnements, et de guider, d'orienter l'énergie. Donc leur valeur ajoutée n'est pas dans leur capacité à produire ou à faire, elle est dans leur capacité à voir et à sentir. Et le premier des conditionnements pour ces personnes-là, c'est qu'on vit dans une société à majorité de faiseurs. 70% de la population est équipée pour faire. Et donc, comprendre que ça ne s'applique pas à 100% de la population dans un monde qui est construit autour du faire, c'est le premier déconditionnement des projecteurs, c'est d'accepter que bah, c'est normal qu'ils ne puissent pas forcément tenir le coup d'une vie de travail, qu'ils soient salariés ou à leur compte, d'une vie orientée sur l'action, d'une vie orientée sur la production, sur la productivité. C'est des gens qui sont faits pour vraiment alterner les moments d'action, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité d'action, mais c'est une énergie qui est fluctuante. Donc je vais y aller un grand coup quand l'énergie est là et accepter de me reposer, de souffler, de me recentrer sur moi. C'est des éternels étudiants, donc d'apprendre, d'introspecter, de me reposer quand l'énergie n'est plus là. Et on vit dans une société où c'est difficile à mettre en place. On est dans une société de constance. Et ça, ça demande beaucoup de déconditionnement, surtout selon la famille dans laquelle ils sont venus au monde, qui peut-être leur a donné beaucoup d'injonctions autour de la valeur travail, de la valeur il faut faire, sinon rien ne va se passer. Et donc, c'est des personnes qui ont souvent du mal à vraiment ressentir toute la magie qui repose sur leur perception. Et offrir ça au collectif, Ça peut tenir en une phrase. T'as pas besoin d'être là de 8h à 20h, ou de 8h à 17h. Et c'est souvent des gens qui sont en burn-out, notamment dans le monde salarié, parce qu'ils s'épuisent sur un fonctionnement qui leur demande de la constance, alors qu'ils sont pas du tout faits pour ça. Et eux, en fait, ils apportent quelque chose de tellement intense, ils percent à l'intérieur de l'autre, pour mieux le guider, pour mieux le voir, mais leur énergie, elle est vraiment pas pour tout le monde. L'intensité, ça marche mieux quand c'est sollicité. Et donc leur stratégie, avant de s'investir à guider ou orienter ou apporter leur vision à quelqu'un spécifiquement, c'est de vraiment sentir qu'ils sont sollicités, qu'ils sont invités à le faire. Donc leur stratégie, là où le générateur, c'est répondre, pour le projecteur, c'est attendre d'être invité et sollicité. Et recevoir de la reconnaissance. Donc c'est très important pour eux pour filtrer, d'être très sélectif sur qui est prêt à entendre, qui a la place de recevoir ma guidance et d'être très précis sur ça. Et comme ils vivent dans un monde qui, encore aujourd'hui, n'a pas la maturité de les accueillir complètement tels qu'ils sont, il peut y avoir une espèce de soif de reconnaissance et la peur que rien ne se présente. Quand tu dis à quelqu'un, il faut attendre que tu te sentes vraiment sollicité, tout de suite, ce qui peut se passer, c'est « bah oui, mais rien va te passer ». Puis c'est surtout ce qu'ils reçoivent aussi de la société. Reste pas là à te reposer, agis, enfin, fais. Et pour eux, quand ils regardent dans le rétroviseur de leur vie, ils savent très bien que ça est toujours venu et ça marche beaucoup mieux quand on les veut vraiment, quand on les voit vraiment. Mais c'est tout un déconditionnement qui doit venir de soi, parce que c'est pas la société qui te donne aujourd'hui la permission d'attendre et que les choses viennent à toi. Mais bien sûr, c'est absolument pas passif, c'est des gens qui doivent développer par exemple une forme de visibilité, quelle que soit leur zone de talent, quelle que soit leur zone d'intérêt, leur curiosité, apprendre vraiment à reconnaître ce qu'ils apportent. Déjà, pour eux-mêmes, c'est important. Et puis le partager, être visible de quelconque manière qui leur convient. Et notre design nous donne aussi des informations sur la meilleure façon pour nous de nous mettre en avant et de partager, au-delà de notre type. Et donc être visible pour que des personnes puissent les reconnaître, puissent les inviter, puissent les solliciter. Bien sûr qu'évidemment, si on reste enfermé dans une cave, on ne reçoit pas d'invitation. Mais lorsqu'on est visible, les bonnes personnes peuvent venir au projecteur et ils n'ont pas à forcer, ils n'ont pas à cravacher en fait. Mais ça, il faut le vivre aussi pour le reconnaître.
Je me demande si, est-ce que dans cette catégorie-là, on va retrouver par exemple les thérapeutes, les coachs, les gens qui ont cette capacité humaine justement de voir, comme tu disais, finalement des dysfonctionnements chez certains et du coup la capacité d'accompagner ?
Il y a beaucoup. Les projecteurs ont naturellement une appétence pour tout ce qui va leur permettre de poser un cadre sur leur ressenti inné. Parce que tout ça, c'est très subtil, mais donc ils vont assez naturellement aller vers la psychologie, la sociologie, l'astrologie, l'histoire, le human design. Ils ont une appétence particulière, par exemple, pour le human design. C'est une révélation pour eux, parce que ça vient vraiment particulièrement les soulager d'une vie entière à se dire « mais c'est pas possible, je suis une feignasse, c'est pas possible, j'y arrive pas, c'est pas possible à forcer contre-courant, à contre-courant de leur énergie, par exemple. » À constater à quel point ça se passe mieux quand on les veut, quand on les sollicite, mais à avoir encore des messages de « faut y aller, faut aller prendre les devants ». Ce qui n'est pas du tout correct pour eux. Donc bien sûr que ça vient soulager. Et donc on les retrouve très naturellement sur tout ce qui va leur permettre de guider l'humain. Des enseignants, des coachs, des thérapeutes. Mais ce n'est pas exclusif. Parce qu'ils font aussi des très bons managers. Puisqu'ils encadrent l'humain, ils orientent l'énergie. Donc ils peuvent tout faire. En fait, et ça c'est un message important aussi, hein, tout le monde peut tout faire. Les projecteurs n'ont pas l'exclusivité du coaching. Mais c'est le faire à sa manière. Et souvent, certains projecteurs me disent hein, « mais moi, je sais pas, moi je suis pas psy, je suis pas coach. » Oui, mais à ta manière, si on creuse, quand tu t'alignes, en fait, t'es en train de guider l'humanité, de guider l'humain, de guider à l'échelle de ta communauté. Mais tu fais quelque chose qui est basé sur ta perception et l'impact que ça peut avoir sur les messages que tu transmets à d'autres humains.
Ok, super. Donc ça, projecteur, 20% de la population environ. Mm-hmm. Et donc le dernier ?
Avant-dernier.
Avant-dernier, ok.
Le manifesteur, donc c'est 9% de la population. Donc j'en ai parlé rapidement quand j'ai dit que c'était mon type. Donc les manifesteurs, pareil, il y a cette notion de fluctuation énergétique, avec un côté très sprinter. Une capacité à mobiliser une énergie énorme pour concrétiser quelque chose. Et puis ensuite, un vrai besoin de repos. Donc il y a cette alternance et encore une fois, cette inégalité dans la disponibilité énergétique dans une société qui réclame de faire avec constance. Ce qui est majeur en fait à savoir pour le manifesteur, c'est le besoin principal qui est celui d'indépendance, d'autonomie, de contrôle sur ses circonstances et ce depuis l'enfance. Alors d'ailleurs, ils sont souvent très contrôlés dans l'enfance parce qu'on sent tout ce potentiel de leadership, on sent tout ce potentiel de vouloir être aux manettes de sa vie, même chez des petits-enfants. Et bah, la plupart des parents sont assez effrayés par ce potentiel énergétique, en fait. Donc, énormément de manifesteurs grandissent coupés de leur pouvoir, coupés de leur puissance, parce que, justement, on leur envoie le message que tu ne peux pas tout faire. Et donc, tu ne peux pas être vraiment toi. Et il y a ce grand besoin d'ouvrir des nouveaux chemins, de découvrir des nouvelles choses, d'être... Il y a un côté très pionnier dans l'énergie du manifesteur. On les retrouve souvent, mais pareil, c'est pas exclusif, mais en tant qu'entrepreneur, parce que bah, ça cumule plein de choses. Ça va aller pour gérer ton énergie de façon fluctuante, ça va aller pour ouvrir des chemins, pouvoir utiliser le côté « je vais vers la nouveauté, et puis je suis pas contrôlée ». Parce que je suis mon propre patron. Donc, mais ils peuvent aussi être salariés, il n'y a pas de souci s'ils ont la marge de manœuvre, l'espace pour être suffisamment autonome, ce qui n'était par exemple pas mon cas, moi, dans mon expérience salariée. Et ça a été très, très compliqué. Donc, il y a cette autonomie naturelle qui doit être épousée et respectée. Et donc, ouais, cette notion de fluctuation énergétique où, pareil, ils sont tout à fait capables de faire. Ils peuvent soulever des montagnes en un temps très court. Quand ils ont vraiment l'énergie qui s'allume, et ça va être détecté en eux. Leur stratégie, c'est ce qu'on appelle initier et informer. Et donc en fait, initier, ça vient du fait qu'ils sont faits pour répondre à quelque chose qui vient de l'intérieur. Contrairement au générateur où je disais les choses se présentent à l'extérieur et ça va déclencher une sensation physique, là où le projecteur, ça vient, dès qu'il s'agit d'impliquer son énergie auprès d'un autre humain, ça vient d'une invitation. Le manifesteur, ça vient de l'intérieur. C'est le seul type qui est fait pour suivre des élans intérieurs. Ce qui est encore différent d'idées. Et pareil, les « il faut, je dois », et parce qu'il y a ça aussi pour nous. Hein. Mais donc, quand un élan se présente, eh bien, de faire confiance que c'est la bonne chose à mettre en place. Et donc, suivre ça. Et quand on a été très réprimé, quand on a été contrôlé, on peut avoir toute une rééducation et un déconditionnement à faire là-dessus, parce qu'on ne se fait pas confiance en fait à ses propres ressentis, et puis ça ne vaut pas le coup, je ressens un truc, mais bon, je ne vais pas aller le faire, je ne peux pas le faire, et puis hop, on met tout en question, alors qu'en réalité, c'est le seul filtre qu'on puisse avoir. Et informer, c'est un petit truc qu'on nous a rajouté par-dessus, parce que l'aura du manifesteur est assez sélective, dense, et peut comprimer l'énergie des personnes autour. Et ça se passe à un point de vue énergétique. Donc on n'a pas besoin de se parler pour sentir qu'un manifesteur est dans la pièce et qu'il peut nous trigger. Tu vois, il y a quelque chose qui peut se passer comme ça. Ça peut intriguer, mais ça peut aussi déclencher. Et en fait, c'est toujours très mystérieux ce qui se passe à l'intérieur d'un manifesteur. Et le fait d'informer, c'est-à-dire simplement tenir au courant les personnes potentiellement impactées par nos décisions avant de le faire, ça permet de calmer les méfiances potentielles qu'il peut y avoir, ça permet de s'assurer d'avoir peut-être du soutien énergétique, des personnes qui vont vouloir se rallier à notre projet, ça permet d'ajouter de la collaboration, ça permet d'avoir que les autres se sentent plus respectés, parce que parfois il y a cette espèce d'impact énergétique qui vient avec le manifesteur et qui peut, tu sais en anglais on dit « keep the others on their toes », tu sais genre faire que les autres se sentent un peu dans l'interrogation, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire, avec du mal à se positionner autour. C'est assez particulier et ça c'est même avec les personnes très proches du manifesteur, hein. C'est pas que les inconnus. Et donc informer dans sa vie de tous les jours, dresser la liste des personnes potentiellement informées, que ce soit parce que j'arrive en retard, que ce soit parce que je vais créer tel ou tel projet ou parce que j'ai envie d'aller à tel ou tel endroit, ça permet d'assouplir en fait la réceptivité en face et de faciliter les choses. Comme ça, le manifesteur a sa route pour pouvoir faire ce qu'il veut à sa manière avec toute la liberté dont il a besoin. Donc c'est un cumul d'une stratégie qui s'appelle initier. Donc suivre ses élans, suivre ses urges et informer.
Et moi, j'ai une partie manifesteur, c'est ça ?
Alors, quand tu as le côté, ce qu'on appelle générateur manifesteur, c'est tu es un générateur. Donc ta stratégie, c'est de répondre et tout se passe dans les tripes. Mais ce que ça signifie, c'est que le côté manifesteur, ça va être qu'une fois que ton ventre a répondu à quelque chose d'extérieur, derrière, tu as une capacité plus grande que les autres types, et qui est donc en commun avec le manifesteur, à pouvoir ensuite mobiliser ton énergie, initier des projets et à les faire sortir de terre de façon très rapide. Donc il y a tous ces points communs. Mais la grosse différence, c'est que d'abord, tu réponds dans tes tripes. D'abord, il y a quelque chose qui se présente, tu sens la validation à l'intérieur et ensuite tu inities. Là où le manifesteur initie, il n'y a rien qui se présente naturellement. Enfin, en tout cas, on n'attend pas ça. Et tu inities uniquement en fonction de ce qui se passe à l'intérieur.
Ok, tu vois, c'est une information intérieure qu'il reçoit.
Oui. Okay. Là où le générateur, il faut que ça se passe à l'extérieur. Mais attention, ça ne vient pas forcément d'un humain pour vous, hein. Ça peut venir une odeur, une affiche, un post Instagram, un mot dans un podcast. Tout peut être un stimulus qui va venir déclencher ta réponse viscérale en tant que générateur et en tant que générateur manifesteur. Donc pareil, t'attends pas qu'on vienne taper à ta porte, tu vis ta vie, mais tu te laisses porter par « Ah tiens, j'ai vu tel truc, j'y vais. » Tu vois ?
Ouais, carrément.
Tu vois la nuance entre
ouais, c'est subtil.
Initier après la réponse. Oui, ouais. Et beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça que je commence à les donner en français les noms, parce que j'ai choisi de faire ça dans le livre. Et je crois que c'est une bonne idée, parce que tu vois, pour ce type spécifiquement, dire manifesting générateur, qui est le mot en anglais en fait, manifesting c'est l'adjectif, et le nom c'est générateur. Et le problème c'est que les gens comprennent manifesteur générateur, et donc ils commencent par manifesteur, et on en oublie que c'est un générateur. Et moi, je m'en fiche de l'étymologie, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens se rappellent qu'ils sont là pour répondre. Parce que c'est comme ça que vous cultivez des opportunités alignées. C'est parce que tu sens dans tes tripes.
Ouais, ça peut être confusant, en effet.
Donc, j'ai commencé à le dire en français, maintenant.
Mais ça me donne envie, en tout cas, d'être à l'écoute de comment je fais.
Mais justement, ouais. Avant de passer au réflecteur, moi, je voudrais savoir un petit peu, est-ce que toi, la notion de réponse viscérale, ça résonne pour toi ? Est-ce que tu le fais déjà ? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent à l'intérieur de toi et d'autres qui se ferment en fonction
ouais,
de ce que tu croises ?
Complètement. Mais j'ai vraiment du mal à dire d'où ça vient. Tu vois ? Si ça vient de quelque chose que j'ai vu ou si ça vient de ce truc intérieur. Et c'est difficile à dire parce que quand même, un ressenti, si ça me prend dans les tripes, c'est que ça vient de mon intériorité. Donc je sais pas, il y a un peu une zone de flou là-dessus, mais en tout cas, oui, moi je le sens vraiment dans mon corps et je suis à l'écoute de ça, je pense.
En fait, c'est pas surprenant que ça, c'est particulièrement difficile à tracer pour un générateur manifesteur, parce que justement il y a ce mix où une fois que t'as répondu. L'énergie, elle se mobilise et il y a un esprit une énergie d'initiative qui se met en place avec une rapidité, particulièrement en plus chez toi. Pas chez les générateurs manifesteurs, mais toi, quand on regarde ton câblage, on ne peut pas faire plus rapide. Et du coup, l'énergie circule avec une vitesse folle vers la concrétisation. Et du coup, bah, ça peut être très compliqué de revenir et de dire « Attends, j'ai répondu, attends, j'ai initié, je ne sais plus. » Et finalement, ça n'a aucun intérêt, ça te maintient dans le mental. Mais c'est souvent le cas parce que tu as une énergie qui est assez explosive avec une densité à l'intérieur qui fait que oui, ça va être difficile de revenir sur tes pas et dire alors attends. Mais vraiment, c'est pas le but, la traçabilité. L'important, c'est que tu sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton ventre. Et chez toi particulièrement, comme tu as un design qui te pousse à la rapidité, plus des éléments qui te poussent à une sensation d'urgence et une potentielle sensibilité au stress, et qui peut du coup, tu reçois le stress et la pression de l'extérieur, tu l'amplifies à l'intérieur de toi et ça peut créer une espèce de précipitation un peu pour tout. Et donc chez toi, un besoin particulier, c'est de ralentir, de prendre le temps de « est-ce que je ressens dans mon ventre ?» ou « est-ce que là je cours par un sentiment d'urgence ?» Est-ce que c'est vraiment une sensation viscérale ou est-ce que c'est une sensation de précipitation et de nervosité ? Et en plus de ça, toi, tu es une décideuse, non pas spontanée. C'est-à-dire que ta réponse viscérale, elle va arriver sur le moment en fonction de ce qui se présente à toi. Mais derrière, tu as une autorité émotionnelle. Et quand on a une autorité émotionnelle, on est fait pour patienter sur ses décisions. Pour sentir en toi, est-ce que ta réponse viscérale, elle reste la même aujourd'hui et demain et dans deux jours ? Ou est-ce que c'était un emballement sur le moment ? Et donc au moment où la réponse viscérale se présente, tu n'as aucun moyen de savoir si ça sera le cas demain ou après-demain. Et donc ici aussi, ton design te demande spécifiquement, même si tu as une énergie hyper explosive, rapide, qui est faite pour être mobilisée dans plein de choses en même temps, oui, mais il y a beaucoup de messages sur ton schéma de prends le temps quand même de pas te précipiter et prends le temps de vérifier en toi si ton énergie, quand tes émotions se posent, quand les up and down peuvent se réguler un peu, est-ce que ça résonne toujours dans tes tripes ou pas ? Pour éviter de regretter le lendemain et de t'être emballé la veille en oui ou en non, tu vois.
Ouais,
comment ça résonne,
parle.
Ça
Si, ça me parle vachement. Mais je pense que j'ai vachement compris ça, comment je fonctionnais, justement, parce que plus jeune, peut-être que je m'emballais très rapidement sur les opportunités. Et en fait, ça m'a menée dans des situations où j'étais là, oh, en fait, j'aurais dû prendre le temps, et sur plein de choses, en fait. Sur plein de choses, sur... Est-ce que vraiment j'avais envie d'aller à cet événement ? En fait, j'ai dit oui trop rapidement parce qu'il y a une espèce d'emballement émotionnel. Et je pense que en maturant, j'ai compris que j'étais comme ça et du coup maintenant je prends vraiment mon temps avant d'acter une décision.
Ouais. Ça, c'est 50% de la population a une autorité émotionnelle. C'est pas exclusif aux générateurs, aux manifesting générateurs, ou voilà. Tout le monde, sauf les réflecteurs, peut avoir une autorité émotionnelle. Et donc, c'est important de savoir que 50% des gens ont besoin de se poser sur leurs décisions. Encore une fois, ça veut pas dire réfléchir, les analyser et peser les pour et les contre d'un point de vue intellectuel, hein. Mais c'est ressentir en soi l'émotion qui se neutralise. On quitte les emballements très haut, oui, c'est super, ou les non, c'est pourri, je veux pas ça, etc. Et on se donne la chance que quelque chose se pose. Ça veut pas dire que ça va nécessairement contredire ta première impression. Mais au moment de la première impression, tu n'as aucune assurance que ça va se maintenir. Donc tu prends le temps. Et c'est génial, en fait. De toute façon, on a tous la possibilité d'expérimenter sans même connaître le human design. Et beaucoup de gens, en fait, disent « Ah oui, ok, et t'as appris tout seul. » C'est juste que le human design vient valider et aussi donner des coups d'accélérateur à des gens dans notre processus. Mais c'est des choses qu'on sent déjà en nous, en fait.
Bien sûr, je pense que si j'avais appris ça il y a quelques années, ça m'aurait peut-être guidée plus rapidement à comprendre ça de moi et à m'éviter peut-être des leçons que j'ai apprises sur le chemin. Mais en tout cas, je résonne complètement avec ça. Et je sais pas, intérieurement, j'ai envie de me dire, mais tout le monde doit être comme ça, mais peut-être pas.
Non, justement, la moitié, par exemple, des générateurs et des générateurs manifesteurs, eux, sont faits pour suivre leur réponse viscérale et être très spontanés. Ceux qui ont une autorité sacrale, leur réponse viscérale du moment, c'est absolument celle qu'il faut faire suivre d'une action. S'ils patientent, eux, ils s'exposent justement à grimper dans la tête, à rater le train, voilà. Donc, eux sont faits pour être spontanés. Puis, il y a d'autres autorités encore qui existent, des autorités très intuitives aussi, pareil, très spontanées. D'autres personnes, par exemple, qui sont faites pour s'entendre parler d'une décision et entendre dans leur propre voix leur vérité émerger. Il n'y a pas vraiment de timing associé. D'autres personnes qui sont faites pour patienter et parler de leurs décisions mais dans différents environnements avec différents interlocuteurs et sentir au bout d'un moment un truc qui connecte. Enfin, tu vois, c'est hyper varié, hyper diversifié et c'est pour ça que je te disais, c'est intéressant de s'intéresser à soi, mais c'est intéressant aussi, et ce que je propose à travers le livre et à travers des masterclass et une future formation, c'est de prendre conscience de ce qui existe aussi qui n'est pas soi. Déjà à l'échelle de ses proches, c'est extrêmement éclairant, mais à l'échelle aussi du monde, quoi, parce qu'on travaille tous avec les autres. On a des clients, on a des employeurs, on a des employés, et ça vient nous montrer, élargir en fait le champ des possibles. Sinon, on ne peut pas imaginer forcément ce qui existe dans d'autres processus de prise de décision. Pourtant, c'est là et ça doit être respecté.
Bien sûr. Et alors, le dernier type, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le dernier type, c'est 1% de la population, donc c'est le type le plus rare, c'est les réflecteurs. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement ouvertes, extrêmement sensibles. Tout leur design est dit ouvert, donc tous leurs 9 centres sont réceptifs et amplificateurs de l'énergie extérieure. Donc, c'est des personnes qui ont une sensibilité immense et qui sont faites pour nous montrer par leur état de bien-être, leur état de mal-être, par leur présence, nous donner des indications sur l'état justement d'alignement ou de désalignement des communautés, des groupes, du collectif au sens large auquel ils appartiennent. Donc il y a un effet miroir, il y a une sagesse naturelle, il y a un côté guidance, hein, comme on le disait pour le projecteur, évidemment naturellement quand tu ressens le monde, tu as forcément des perspectives extrêmement valuable à partager, et une capacité à sentir où le monde en est. Et c'est des personnes qui naturellement seraient faites pour être, tu vois, au centre du groupe, au centre de la communauté, et auprès de qui on perçoit, on a accès à des visions et des perspectives toutes particulières sur le groupe en lui-même. Et finalement, un réflecteur, pardon, qui se sent pas bien ou qui développe des maladies, ou voilà, ça dit beaucoup plus du groupe auquel il appartient et dont il faut qu'il sorte, que de lui-même. Donc il y a un effet, oui, caméléon, un effet miroir, c'est des gens qui ont une identité extrêmement fluctuante, qui va dépendre des moments, qui va dépendre des personnes auprès de qui ils se trouvent, parce qu'ils vont recevoir et amplifier notamment l'identité des autres, mais pas que, l'état émotionnel des autres, leur capacité de travail, leur sensibilité, leur intuition, leur vision du monde, ils reçoivent en fait le monde de toutes parts. Et donc il y a un potentiel de sagesse, de refléter en fait où on en est, de façon très objective. Un des mots-clés du réflecteur, c'est l'objectivité. C'est des personnes qui, quand elles sont alignées, ont une capacité de nous partager des perspectives qu'on pourrait trouver nulle part ailleurs. Et eux, leur stratégie, alors elle est tout à fait particulière, c'est qu'ils sont faits pour patienter un cycle lunaire sur les décisions. Pourquoi un cycle lunaire ? Parce qu'au fil de la progression de la Lune, donc sur environ un mois, un peu moins d'un mois, ça va venir en quelque sorte éclairer différentes pièces à l'intérieur d'eux-mêmes et venir leur faire sentir ce qui peut être juste pour eux en leur permettant de se connecter à différentes parties d'eux. Et donc tout ce qui est spontané, tout ce qui est impulsif, tout ce qui est emballé peut être en fait le reflet de quelque chose qu'ils ont absorbé temporairement et donc parler du monde extérieur. Et pour revenir à eux, il faut vraiment qu'ils se laissent ce temps-là de laisser toutes les multiples pièces de leur maison intérieure s'allumer progressivement pour sentir ce qui vraiment reste eux sur cette décision. Et donc, ce n'est pas toujours pratique à mettre en place de dire à un employeur, attendez, je reviens vers vous dans la fin du cycle lunaire ou dans un mois. Et donc, ça demande aussi beaucoup de connaissance de soi, beaucoup d'acceptation de soi. Si vraiment je ne peux pas prendre ce temps-là, eh bien, je décide avant, après m'être laissé le maximum de temps, mais je m'autorise, bah, peut-être que dans un mois, ça ne sera pas bon, donc je reviendrai sur mes pas, mais sans me juger, tu vois, par exemple. Et c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'un entourage stable, respectueux, tolérant de leur processus complètement unique. Un entourage qui va prendre soin d'eux, parce que bah, comme le réflecteur reçoit et amplifie tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est important de travailler sur soi, particulièrement quand on fréquente un réflecteur. Et c'est des gens pour qui le fait de s'autoriser à être si changeant, si fluctuant, si multiple, si caméléon, et de se sentir respecté aussi pour ça et pas enfermé dans une case, c'est aussi des besoins relationnels très importants.
Ok, alors là, pour les gens qui nous écoutent, on n'en a pas parlé, mais comment est-ce qu'on fait pour connaître notre type et notre human design, tout simplement ?
Alors, il y a des logiciels qui existent. Il y en a un sur mon site, melissasimono.com, découvrir votre human design, et vous rentrez vos informations de naissance, donc date, lieu et heure. Alors, l'heure compte, l'heure précise, donc c'est important de l'avoir ou de la demander ou de la rechercher dans votre carnet de santé. Et en fait, c'est là où ça vous donne ce fameux schéma qui n'est pas du tout clair, mais vous allez avoir une légende qui vient avec, où il y a, les gens peuvent trouver leur type, leur autorité, donc la fameuse autorité où la tienne est émotionnelle par exemple, mais il y en a d'autres, pour prendre des décisions, le profil, et ils vont voir lesquelles de leur centre, donc ces fameuses 9 formes géométriques sur le schéma, lesquelles sont colorées, donc ça veut dire qu'elles transmettent de l'énergie vers l'extérieur, c'est stable, c'est moi, et lesquelles sont à l'inverse ouvertes, donc blanches, donc c'est tous nos récepteurs, toute notre sensibilité où on reçoit le monde extérieur et qui peut, bah, comme je le disais, à la fois nous apprendre des choses, mais aussi nous déstabiliser. Donc, c'est important aussi de connaître ces zones-là, savoir que, par exemple, certaines personnes, 50% des gens qui n'ont pas une autorité émotionnelle, une de leurs zones sensibles, par exemple, c'est les émotions des autres. Donc, ils vont recevoir et amplifier l'état émotionnel des personnes qu'ils fréquentent ou même qu'ils croisent dans un magasin. Et ça va peut-être impacter leur expérience. Parce que bah, moi, j'étais toute seule chez moi, ça allait. Puis je suis allée au magasin et je suis revenue, j'étais dans un état, ou alors, bah, même si c'est des proches, tu vois, ils vont ressentir la tristesse x2, ils vont ressentir la joie x2, l'euphorie x2, et savoir que ça, c'est pas leur expérience. Ça, c'est des choses qui ont vocation à les traverser, à leur donner de l'information. Ils peuvent devenir des empathes et des guides puissants émotionnellement parce qu'ils peuvent poser des mots, parce qu'ils ressentent l'expérience de l'autre. Mais il faut absolument s'en distancier. Il faut absolument ne pas l'intégrer dans ta propre expérience parce que si tu mets des actions en place depuis cet état émotionnel, ça n'a rien à voir avec toi en fait. Donc c'est là où le human design devient extrêmement concret, c'est ok, quel est mon système à moi de prise de décision, quel est mon fil d'Ariane à moi, comme ça je peux traverser des états fluctuants, des états changeants, absorber plein de choses qui viennent de l'extérieur, mais toujours avoir un moyen de revenir à mon centre.
C'est super intéressant, ça guide vraiment, ça peut guider vraiment sur plein d'aspects différents. Mm-hmm.
Un autre aspect, si on a 2 minutes, je voudrais savoir comment tu résonnes avec ça, je suis curieuse, c'est justement ton profil. Toi, tu as un profil 2-4, donc qu'on appelle dans le jargon human design, ermite opportuniste. Alors les mots parfois sont un peu bruts de décoffrage et dans le livre, j'ai renommé pas mal de choses pour que ça soit plus facile à intégrer et qu'on ait moins de biais. Mais en tout cas, ça nous parle d'une ambivalence dans ton besoin de rapport aux autres. Donc il y a un côté chez toi qui est naturellement ermite, avec un immense besoin de solitude, voire de réclusion, parce que ça te régénère, parce que ça te permet d'être vraiment toi, ça te permet notamment en tant que générateur manifesteur de pouvoir faire les choses à ton rythme, sans être freiné, sans être ralenti par l'ensemble de ces gens qui vont jamais aussi vite que toi. Et puis une autre partie de toi, qui a un vrai besoin relationnel, un immense besoin de connecter à l'autre, qui reçoit beaucoup d'opportunités de l'extérieur et notamment des personnes que tu connais, de ton réseau. Donc c'est de là que vient le mot opportuniste, c'est pas une connotation négative comme on peut avoir dans notre société, c'est que vraiment les meilleures opportunités pour toi vont venir des gens de ta zone de réseau, de ta zone d'influence, et des gens avec qui tu as déjà un lien. Et donc tout le côté friendly, le côté communauté, le côté lien est extrêmement nourrissant et important pour toi. Mais c'est important de pas nourrir plus une partie au détriment de l'autre. Donc de pas être trop dans la solitude pour léser la partie friendly de toi et de pas être trop dans les interactions et dans le besoin de lien, parce qu'après tu peux avoir une espèce de fatigue sociale qui s'installe parce que ton côté ermite, ton côté solitaire n'est plus suffisamment nourri. Est-ce que ça te parle tout ça ?
À fond. Alors aussi, je prends vraiment conscience là maintenant, presque à la fin de la conversation, c'est comme s'il y avait des bribes d'informations qui n'étaient pas tout à fait rentrées, mais mon côté, je vais très vite et parfois dans le boulot, je vois que en fait, certaines personnes, ça va pas assez vite. En fait, du coup, ça me bloque. Du coup, je préfère pas les voir parce qu'en fait, moi, j'ai besoin vraiment d'avancer et faire des rendez-vous pour faire des rendez-vous ou des réunions pour faire des réunions. Au final, on avance que de 5%, que moi, si j'avais été tout seul, j'aurais pu vraiment faire ça. Ça me parle énormément. Le côté ermite aussi, du coup, parce que j'adore être toute seule. Ouais, vraiment, je passe des super moments avec moi-même. Enfin, et je sens que j'en ai besoin, en fait. C'est des moments vraiment hyper précieux pour moi et que j'adore et dont j'ai besoin. Cela dit, quand je suis en déséquilibre là-dedans, ben, je vais me sentir, ben, pour le coup, vraiment trop seule et pas bien, en fait, parce que déséquilibrée. Et par contre, et ça, je pense que les personnes qui nous écoutent le savent parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, c'est l'esprit de communauté. Il est très, très important pour moi. Me sentir connectée aux autres, ça, c'est un mot que tu as utilisé et qui est très important pour moi et qui, ouais, qui fait pour moi partie des choses les plus importantes dans mon expérience de vie. Mmh. Donc, ouais, complètement. Mmh. C'est fou. J'adore.
Non, mais tu vois, ce qui est fou avec le design, c'est pas tant. Moi, la plupart des gens sont jamais surpris parce que je peux leur partager. En revanche, ils sont surpris par le fait que leurs informations de naissance donnent accès à des choses comme ça. Et là encore, tu vois, on touche à plein de choses, mais on reste relativement en surface. Et il y a encore énormément de choses qu'on peut aller creuser quand on s'intéresse à toutes tes zones ouvertes. Je t'ai un peu parlé du sentiment d'urgence. Parce que tu reçois la pression et le stress, mais tu as aussi, par exemple, la capacité, toi, de tout ton mental est ouvert. Donc, tu vas avoir cette capacité à recevoir les idées, les inspirations, le mindset, la façon de voir les choses, les perspectives. Tout ça est très fluctuant. Et donc, tu as la capacité, par exemple, d'empathiser avec toutes sortes de points de vue, de comprendre toutes sortes de façons de voir les choses. Tu peux envisager 12 possibilités pour une même problématique, par exemple. Et donc pour toi, le travail, c'est pas d'essayer de t'enfermer dans une opinion, de pas te juger parce que tu as des perspectives qui changent, parce que peut-être tu prends pas parti, parce que peut-être tu t'enfermes pas dans une seule vision et que du coup, bah, les débats ou les choses comme ça te passe au-dessus. Et ça, je sais que certaines personnes avec cette configuration peuvent se juger pour ça, se sentir peut-être un peu parfois défaillante dans le processus intellectuel parce que mais c'est pas possible, en fait, je raisonne pas avec une seule façon de voir les choses, ou alors je change d'avis comme de chemise, ou toutes ces choses-là qui font en fait ta magie, parce qu'il y a cette immense ouverture et donc tu peux offrir ces perspectives au monde, tu peux offrir cette richesse et cette largesse au monde. En revanche, si tu n'utilises pas ton mental pour décider, parce que justement, tu vois, ça part dans tous les sens, et donc dans ton cas, ça peut être un syndrome de l'objet brillant à fond, ça peut être « oh, t'as l'idée, oh, t'as l'idée, oh, t'as l'idée », puis en plus, t'as tellement d'énergie que tu peux poursuivre 10 000 trucs à la fois, mais on remet les choses dans leur contexte. Chez toi, ça doit pas venir d'une idée, ça doit pas venir de 10 000 idées, ça doit venir de quelque chose qui a croisé ta route à un moment et qui a déclenché une sensation physique. Donc tu attends cette sensation physique et tu ne poursuis pas les 10 000 idées que tu as en tête. En revanche, tes 10 000 idées que tu as en tête et ta façon de voir les choses hyper large, ça peut être un immense cadeau à offrir au monde.
Ouais, j'entends. C'est super intéressant parce que, en effet, ce truc de « j'ai 10 000 idées », je le sens, enfin, je vois que je l'ai. Mais les projets qui m'ont le plus porté, qui ont été le plus épanouissants pour moi, sont ceux que j'ai conscientisés depuis mon ventre. Mmh. Donc ça, je pense que c'est génial pour moi de vraiment mettre ça en lumière. Et aussi, ce côté, qu'est-ce que tu viens d'exprimer ? Il y a un truc qui m'a parlé dans ce que tu viens de dire.
Le fait de pouvoir offrir au monde l'ensemble de tes
perspectives. Différents points de vue, ouais. Tout à fait. Et pendant longtemps, je me disais, j'ai pas d'opinion, parce qu'en fait, je suis d'accord avec lui et je suis d'accord avec lui aussi. Et aujourd'hui, je vois ça vraiment comme une force. Mais je sais que pareil, plus jeune, je me disais, moi, il faudrait que j'ai une idée là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ta force, c'est que tu peux comprendre les différents points de vue. Et c'est OK de ne pas avoir d'opinion tranchée sur une chose, parce que tu as une autre capacité, toi. Donc, ouais, c'est super intéressant. Mais je serais hyper curieuse de faire ça en groupe, une lecture de Human Design. Parce que là, moi, quand tu m'en parles, je me dis oui, mais... Encore une fois, j'ai cette petite voix qui revient, mais qui, je pense, est normale quand on fait un travail de connaissance de soi. C'est « oui, mais tout le monde fait comme ça » ou « tout le monde est comme ça », alors que je ne pense pas que tout le monde soit comme ça. Et je pense que ça peut être fort de le faire en groupe pour se dire « ben non, en fait, moi, je ne fais pas comme la personne à mes côtés ». Ouais, tu vois souvent ce genre de réaction ?
Ouais, et puis moi, c'est vraiment le truc, j'ai cette sensibilité particulière dans mon travail, de vouloir, alors je peux pas le faire avec tout le monde, moi je reçois les gens beaucoup en séance individuelle et on n'a pas l'espace de parler de tout, que ce soit les origines du human design pour certains que ça intéresse, pour parler de toute leur famille en un coup, mais je vois les gens plusieurs fois souvent parce que d'abord ils commencent par eux, puis ensuite ils ont envie, on peut superposer par exemple plusieurs schémas, on peut superposer 2, 3 et plus schémas et voir en fait la dynamique énergétique qui se crée dans le cadre d'une relation. Donc, on peut percevoir les atouts spécifiques, peut-être certains challenges d'une relation. Donc, c'est hyper intéressant que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou dans une équipe professionnelle aussi. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est dès que j'en ai la chance, de pouvoir expliquer aux gens ce qui n'est pas eux. Donc, que ce soit aux parents pour leurs enfants, que ce soit aux collaborateurs pour les autres membres de leur équipe de travail, dans les amitiés, dans tout type de relation. C'est pour moi le plus beau cadeau du human design. Bien sûr, se connaître soi, c'est essentiel et ça part de là. Moi, les gens qui m'approchent en me disant « je voudrais d'abord faire celui de mon enfant », non, on va commencer par toi. En tout cas, avec moi, ça se passe comme ça. Mais bien sûr que les ateliers où on a plusieurs types, plusieurs profils, on a forcément une diversité qui s'installe dès qu'on a plusieurs personnes. Et d'écouter en même temps ce qui vient des autres, et de le relier à l'expérience, peut-être, moi je conseille toujours aux gens quand je fais des ateliers de prendre le schéma de leur famille, parce que du coup, quelqu'un qui va s'exprimer, qui va être présent dans le groupe, va peut-être apporter quelque chose qui est présent chez leur compagnon, chez leur enfant, chez leur mère, chez leur sœur, etc. Et là, ils font des liens, et il y a des choses qui s'éclairent. Tu vois, j'ai fait un atelier à Paris au mois de novembre, la fille, elle était comme toi. Enfin, une des participantes, elle était générateur-manifesteur, et quand on en est venu à parler des projecteurs, et que les 2 ou 3 projecteurs qui étaient présents dans le groupe se sont exprimés sur leur expérience dans ce monde de générateurs. Et elle, sa fille l'était, sa fille de 20 ans. Et en fait, elle a commencé à cocher plein de cases dans sa tête, à avoir plein d'ampoules qui s'allument et à se dire « waouh, mais en fait, je l'ai poussée à la constance, mais en fait, je n'ai pas forcément respecté sa nature. Est-ce que j'ai valorisé suffisamment sa vision ou est-ce que j'ai plus attendu qu'elle fasse, qu'elle soit dans l'action ?» Et en fait, l'idée, c'est pas ni de blâmer ses parents quand on découvre son design, parce que ça peut arriver souvent de se dire « purée, j'ai pas été accueillie comme je l'aurais voulu », ni de se blâmer soi-même pour peut-être le non-accueil qu'on a réservé aux autres, mais de se dire qu'il est jamais trop tard pour se reparenter, il est jamais trop tard pour agir différemment auprès des autres, et que c'est merveilleux, quel que soit le moment auquel on reçoit ces informations, on est juste chanceux de qu'elles croisent notre route, quoi.
Ouais, c'est vraiment un outil d'acceptation de soi, des autres. De quelle manière, toi, est-ce que tu vois que ça aide vraiment les gens, peut-être d'autres manières d'acceptation, même de, je sais pas, de sortir de toutes ces injonctions? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses?
Il y a plein de choses. C'est très intéressant d'un point de vue entrepreneurial, par exemple, parce que là, pareil, c'est un domaine où il y a énormément d'injonctions. Comment on montre une entreprise? Comment on réussit une entreprise? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Comment on poursuit des opportunités avec toujours cette notion de proactivité? Tu vois, il faut aller chasser le client, il faut aller être visible de telle manière. Il faut, tu vois, il y a beaucoup d'injonctions là-dessus. Et en réalité, le design vient mettre beaucoup de nuances sur la façon dont on se met en avant. Tu vois, par exemple, certaines personnes sont faites pour avoir un niveau de profondeur, de détail, de structure dans la façon dont ils vont présenter peut-être leur offre, et ils vont attirer en revanche des gens en face chez qui ça va résonner et qui ont un grand besoin de détails aussi. Et puis il y a toute une autre partie de la population, c'est vrai pour toi par exemple, tu vois, avec ton profil avec un 2, l'ermite, il y a plein d'autres choses qu'on peut se dire aussi, notamment sur le fait que toi t'es faite pour épouser ce que tu sais faire naturellement sans nécessairement t'imposer d'être capable de l'expliquer. D'où ça vient, où est-ce que je l'ai appris? Et t'as juste tes talents innés, t'as des choses que tu es là pour offrir au monde. Plus c'est facile pour toi, plus ça a de la valeur. Et on vit dans une société où quand c'est trop facile, ou quand c'est facile tout simplement, et qu'on n'a pas cravaché pour, bah ça n'a pas de valeur. Où est ton diplôme? Où est ta preuve? Où est tout ça? Et toi, par exemple, plutôt que de te perdre dans les détails, dans les profondeurs, de j'ai tel diplôme, j'ai tel certificat, j'ai tel machin, à l'inverse, épouser le « bah je peux pas vous dire comment je sais faire ça, juste je sais le faire ». Et de prêter une attention particulière à ce que les gens vont voir en toi. Et tout ce que tu vas dire, ouais, enfin ça c'est pas grand-chose quand même. Ah si. C'est justement, tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde ne... Voilà, et c'est pas parce que tu ne sais pas nous l'expliquer, nous le justifier, que ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Donc ça aussi dans l'entrepreneuriat, par exemple, savoir ça, c'est important. T'as d'autres personnes qui sont faites pour apprendre particulièrement plus que les autres humains en se trompant, par l'échec. Considérer que justement, il n'y a aucun échec, il n'y a qu'une source d'apprentissage et de feedback, qu'il faut lâcher le besoin de réussir quoi que ce soit du premier coup, et que c'est comme ça qu'ils enrichissent leur progression à eux, mais qui surtout ensuite, ultimement, a vocation à être partagée pour peut-être éviter aux autres de faire les mêmes erreurs ou juste apprendre aux autres de leur parcours. Et c'est des gens qui doivent absolument éradiquer le perfectionnisme, éradiquer toute quelconque attente de réussite sur leur projet, et se laisser se planter. Mais on va voir dans leur design que peut-être à un autre endroit, il y a une énergie particulièrement perfectionniste. Et donc, poser des mots là-dessus, venir trouver des moyens de raccrocher les wagons sur leur expérience, ça peut dénouer des choses, donc aussi bien dans le perso, mais que dans l'entrepreneuriat, où tu es tout seul, souvent, quand tu démarres, avec tes questions et des méthodes toutes faites de coaching qui, certes, peut-être très bien intentionnées, sont souvent, en fait, juste la reproduction de ce qui a marché pour quelqu'un qui a peut-être, sans le savoir ou en le sachant, respecté son design, mais qui, en fait, ne sera pas du tout juste pour toi. Moi, je veux absolument diffuser cet outil-là aux accompagnants, par exemple. Ça, c'est mon objectif. Tu vois, une fois, là, il y a mon gros bébé avec le livre. Mais mon objectif, ensuite, c'est de diffuser le human design à ceux qui parlent aux gens. Les accompagnants, les thérapeutes, les coachs, parce qu'il y en a de plus en plus et qu'ils ont besoin de cet outil pour enrichir leur perspective et mieux guider les gens avec beaucoup plus de nuances et de précision que ce qu'on peut trouver aujourd'hui.
Super. On voit que t'es complètement passionnée, en tout cas, c'est génial de voir ça. On arrive à la fin de notre interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
J'ai partagé beaucoup de choses, hein, je crois.
C'est clair.
Je pense que c'est déjà assez dense. Bah, dire aux gens, les réinviter encore une fois à cette expérience de vérification par soi-même. Et que oui, ça peut être très excitant pour le mental, le human design. C'est de la nourriture pour le mental, surtout si on a des aspects en nous qui nous poussent à particulièrement de curiosité, particulièrement de besoin de creuser, etc. Et de toujours veiller à l'intégrer à votre expérience, que ce soit à travers une séance, qui est souvent le meilleur moyen de le faire parce que c'est le plus adapté et personnalisé à vous, mais que ce soit aussi juste par vous-même, avec des outils concrets pour intégrer tout ça, et de ne pas rester au stade de l'information, parce que c'est un gros potentiel qui existe avec cet outil. C'est le paradoxe. C'est un outil d'expérimentation, mais c'est un outil tellement dense. Je viens d'écrire 420 pages dessus, il y a d'autres bouquins qui existent, il y a des tonnes de ressources, et on peut vraiment rester à ce stade-là. Et est-ce que vous voulez analyser votre design, ou est-ce que vous voulez vivre plus proche de ce que vous êtes vraiment? Et ça, c'est important quand même, toujours de se rapprocher de ça.
Merci beaucoup, Mélissa.
Merci à toi.
Comment est-ce que les gens peuvent te suivre, prendre une consultation avec toi? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact?
Tout est disponible sur... moi, je suis Mélissa Simoneau partout. Alors, sur mon site internet, melissasimoneau.com, sur Instagram, c'est là où je suis le plus active aussi. Donc, je partage des contenus. J'ai une newsletter aussi où je donne des informations. Donc, c'est bien de suivre la newsletter aussi parce que c'est souvent plus facile. Je pense que tu connais ça aussi. Instagram, c'est un peu aléatoire parfois. Donc, la newsletter. Et puis, je propose donc des séances individuelles ou ensuite des séances de duo, de couple ou de famille ou d'équipe. Je propose des guides écrits aussi. Et on peut mettre en place une réduction pour les personnes qui nous écoutent aussi, s'ils veulent composer leur guide écrit. Donc, on peut mettre Anouk, par exemple, si ça te convient.
Donc, guide écrit, ça veut dire qu'ils vont pouvoir aller sur ton site internet, rentrer leurs informations et de là avoir un écrit, en fait, de leur, de leur human design.
Exactement, et qui permet, en fait, de le garder avec soi. J'ai des gens qui l'ont depuis plus de 4 ans maintenant et qui cheminent avec, qui en ont une lecture qui s'approfondit et qui s'affine à chaque nouvelle relecture, et j'y inclus des outils, des clés pour expérimenter, et des infos, donc c'est vraiment un outil de cheminement justement pour favoriser l'expérimentation et pas rester au stade de « je lis mes pages sur moi ». Mais donc c'est un gros manuel de l'utilisateur de environ 70 pages selon notre design. Et je propose aussi des masterclass sur les types. Donc là, ce que j'ai fait en surface, à les présenter rapidement, j'ai 3 à 4 heures de vidéo pour chaque type. J'ai pas encore fait le réflecteur, mais j'ai les 4 autres. Donc là, pareil, c'est une plongée en profondeur dans le fonctionnement du type et des autorités, donc des prises de décision qui vont avec. Donc ça, j'invite aussi les gens à regarder la leur, mais à aussi prendre celle de leurs compagnons, de leurs enfants, de leurs compagnes, de leurs amis, parce que justement, ça donne énormément de détails sur le fonctionnement des autres, rien qu'à l'échelle du type. Et puis, il y a le livre. Donc justement, il y a le livre qui est aussi une très très belle ressource. Là où le manuel n'aura que les informations qui vous concernent, et donc c'est votre manuel d'utilisateur, c'est votre propre notice, le livre c'est le regroupement de l'encyclopédie, entre guillemets. Là où le manuel c'est le plan de votre maison, je l'ai empreint d'une énergie beaucoup plus intime, le livre c'est beaucoup plus généralisé, c'est le retour à la base, c'est... Ouais, je l'ai vraiment conçu comme une encyclopédie. C'est pas fait pour se lire de la couverture à la couverture. C'est pour l'ouvrir, le refermer, consulter, en savoir plus sur quelqu'un d'autre aussi. Et donc voilà, il est disponible à partir d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Mélissa, pour tous tes partages.
Merci à toi.
C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Et juste, j'ai une dernière petite question. Mais est-ce que tu savais que je guidais des ateliers Animal Totem? Et est-ce que tu connais un petit peu ça?
Je savais parce que je t'ai entendu en parler dans un épisode récemment, mais je n'ai pas creusé. Je crois me souvenir qu'il y a un truc qui est venu dans une guidance, mais alors tu vois, je ne l'ai pas imprimé.
Ok, ça marche. Parce que la façon dont tu es passionnée par le human design, ça me fait penser à la passion que j'ai pour les animaux totem qui m'ont tellement aidée dans la connaissance de moi-même, l'acceptation de moi-même et des autres aussi. Et j'adorerais t'offrir, si tu veux bien, un atelier pour que tu découvres le tien à l'occasion dans le coin, si ça te dit.
Avec grand plaisir.
Ouais, ça serait une joie pour moi de te rendre, puisque tu m'as offert ce magnifique livre.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Merci à toi.
Je me réjouis de découvrir autre chose.
How interesting! Cette conversation m'a personnellement donné envie de plonger davantage dans mon type pour savoir quelle pépite est-ce que je peux continuer à trouver. J'espère que cette conversation vous a plu. Mélissa et moi, on adorerait savoir ce qui vous a le plus parlé. N'hésitez pas à venir nous laisser un commentaire sous la fenêtre de l'épisode sur Instagram. Et puis, si tu écoutes régulièrement le podcast, si tu apprécies les épisodes, alors ça serait vraiment top si tu pouvais te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Et je tiens vraiment à vous remercier pour vos derniers commentaires que j'ai lus, qui me font tellement plaisir. Merci, merci beaucoup. Et puis, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, ma belle, alors laisse-moi te rappeler que tu es une véritable queen et que tout... c'est possible, absolument tout. Crois en tes rêves and keep going. Je te souhaite une belle journée, belle soirée, où que tu sois, et je te dis à la semaine prochaine.